Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention.
Qu'est-ce qu'il y a?
Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute. Qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui.
Cinérama.
J'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue. C'est Cinérama, une émission qui vous propose d'écouter du cinéma à la radio. Et nous allons faire des chroniques de films qui sont actuellement dans les salles. Et nous parlerons aussi d'une BD en fin d'émission, Les Guerres de Lucas, parce que c'est une BD qui a eu un certain succès. Et ça fait longtemps qu'on reporte le moment d'en parler. Bonjour Sophia, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Bonjour, moi je vous parlerai du deuxième long métrage de Xavier Legrand, Le Successeur.
Et puis toi Guillaume, c'est un dessin animé.
Oui, moi je vais vous parler du Royaume des Abysses.
Quant à Manu, il nous parlera d'un autre film asiatique, c'est Sleep. Moi, je vous parlerai très rapidement de Une vie de James Howes, mais nous allons commencer avec Vivant, portrait d'une équipe fabricant des reportages pour la télé.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Je suis désolée, on part en tournage, là. J'ai dit OK pour te rencontrer, mais j'ai rien promis. Tout le monde veut bosser avec nous, hein. C'est quoi ton truc?
Je sais réparer une caméra.
Ça, on a des gens pour ça, hein.
Repéré pour Angèle et Tony, puis ayant poursuivi avec le dernier coup de marteau, Alix Delaporte livre son troisième long métrage, Vivant, un film qui nous plonge au sein d'une équipe de reportage pour la télévision. Un sujet en rapport avec les débuts de la réalisatrice qui a été caméraman pour l'agence Kappa. C'est le trajet de Gabrielle, convaincante Alice Isaaz, jeune femme qui cherche un stage et qui va nous servir de fil rouge pour suivre cette équipe qui se connaît depuis une bonne quinzaine d'années. Or, cependant, par rapport au début, les temps ont changé. On ne les envoie plus faire des reportages sur la guerre à l'autre bout du monde. Ils sont confrontés à l'audimat, aux susceptibilités des personnes qu'ils brocardent et qui semblent avoir davantage d'affluence auprès de leur patron. Et on leur parle d'audimat, évidemment.
Vincent, le rédacteur en chef de l'émission.
Merci.
Chouchou.
Bon, on y va?
Prends-la avec toi.
Batterie!
Ah mais vous vous débrouillez, vous passez, hein. Vous rentrez pas sans rien.
Ok, on va se démerder.
Je peux filmer si tu veux, j'ai la caméra de secours.
L'émission, elle est pas que sur la police?
Non. Qu'est-ce que vous faites?
Je pouvais pas savoir.
Tu fermes ta gueule.
Un truc à faire, c'est le matos. Concentre-toi là-dessus, putain de merde.
Bon, il y a de l'action. À la tête de cette équipe, il y a Vincent Roche-Dizem, qui est passé de grand reporter à rédacteur en chef. Il remarque la jeune Gabrielle, envoyée par un de ses confrères, et décide de lui donner sa chance. Elle s'occupera avant tout du matériel, même si son rôle va s'étoffer. C'est avec ce regard neuf de la jeune femme qui a tout à prouver qu'Alix Delaporte tient à nous montrer comment ce monde-là coexiste. Il y a donc Vincent qui a préféré arrêter de filmer pour encadrer. Il y a Damien, Vincent Elbaz, un caméraman qui a soif d'action, toujours à la bonne distance, selon son monteur. On trouve aussi Alex, celui qui joue le benet Wilfried dans Les Tuches, hein, qui joue ici un caméraman tout fou. C'est très étrange, hein, d'ailleurs, hein, parce que moi, je l'ai surtout vu dans Les Tuches, donc j'ai eu du mal à me sortir cette image. Il y a aussi Costa, Jean-Charles Clichet, qui est totalement addict, un peu désabusé, mais qui a suffisamment de métier pour tenir tête aux invités sur le plateau. Et enfin, Camille, Pascal Arbillot, seule femme de l'équipe qui est journaliste et dont on comprend que si elle n'a pas d'enfant, c'est que ce métier ne lui donne aucune vie.
Il y a une attaque à Bangui. Mais là, il y a 128 morts.
Un gilet pare-balles?
L'international, ça marche plus. On a besoin de rêver, c'est comme ça.
Les trois quarts de la planète sont en train de crever. Lui, il nous manque du rêve.
Qu'est-ce qui se passe?
Damien s'est fait shooter.
Je le cherchais.
Je suis contente de te voir.
C'est là qu'il s'est pris la balle.
Et il a des images? C'est la chaîne qui me demande.
Tu crois qu'on peut le diffuser?
Les gens veulent plus voir la mort.
Comment continuer à faire son métier avec les contraintes financières qu'on leur impose et puis également les sujets parfois racoleurs qu'on leur soumet? Entre les pots de vin de politique ou les militants faisant un commando pour libérer des lapins, ce qui laisse place à une séquence d'ailleurs où même ceux qui filment ne prennent pas la chose au sérieux, eh bien le sérieux, ce pourrait être Gaza, l'Ukraine. Mais ce n'est pas ce qu'on leur demande. Le film nerveux, sec, hein, 1h30 et encore à peine, nous fait entrevoir ce que peut être le quotidien de cette équipe, les tournages, les préparatifs, les infos à glaner, les compromis à faire dans la journée. Il est en cela très documenté sans être un documentaire. En revanche, Alix Delaporte épaissit la fiction en traitant également d'autres thèmes. Alors d'une part la famille, car cette équipe fonctionne un peu comme cela, avec des solidarités, des coups durs, des choix à faire. Et d'autre part, c'est la question de l'envie, c'est l'enjeu dramatique du film. Qu'est-ce qui donne l'envie de filmer, de transmettre? Vincent, le personnage de Roche-Dizem, a perdu ce goût, peut-il le retrouver? Quel sens cela peut-il avoir? Et puis enfin, Alix Delaporte se pose vite fait la question de la transmission, avec le regard posé bien sur la stagiaire. La réalisatrice Harris indique que l'envie des jeunes générations de rapporter la vérité est toujours là dans un monde où, pour certains, eh bien, le mot fake news est apparu en même temps que leur naissance. Cependant, dans ce tissage, la réalisatrice s'en mêle un peu. Alors, c'est assez troublant car la relation entre la stagiaire et le rédacteur en chef n'apparaît pas toujours sur un plan professionnel. C'est le sentiment que j'ai eu. On a parfois l'impression que la réalisatrice suggère une vague histoire amoureuse. Mais passé cet écueil, le film d'Alix Delaporte se regarde avec plaisir et on en sort, eh bien, surtout plus informé. Ce film vivant est en salle depuis le 14 février. Pour ceux qui avaient aimé Jusqu'à la garde, eh bien, le deuxième long métrage de Xavier Legrand pourrait être attendu. C'est le successeur et nous en parlons maintenant.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Vous êtes en danger, monsieur ? Vous pouvez parler ?
Pour un réalisateur ou une réalisatrice, le passage au second long métrage est susceptible de provoquer des états d'anxiété avancés, surtout quand il est attendu de tous après un remarquable premier long. Après le puissant Jusqu'à la garde, sorti en 2018, thriller conjugal palpitant sur la question du droit de garde après un divorce difficile, Lion d'argent à Venise, 5 Césars et j'en passe, Xavier Legrand récidive quelques 6 ans plus tard et défie nos attentes avec Le successeur. Un film qui vient chercher nos propres angoisses à mesure que s'intensifie celle du personnage principal. L'anxiété se niche partout dans ce film versatile qui change de genre plusieurs fois en cours de route et ne cesse de nous surprendre, jusqu'au bout de la spirale infernale.
Ton père a été quelqu'un de marquant. J'ai tout fait pour pas y ressembler.
En se fiant au synopsis et à la séquence inaugurale du film, on se pense propulsé dans le milieu de la mode, où Elias, le personnage principal interprété par Marc-André Grondin, reprend la succession d'une prestigieuse maison de haute couture. Dans cette première séquence qui ouvre le film sur un long générique, la mise en scène magistrale nous fait véritablement assister à un défilé de mode savamment chorégraphié. Le nouveau directeur artistique y présente sa collection, rendant hommage à la précédente créatrice tout juste décédée, tout en affirmant sa nouvelle identité. Le dispositif original du défilé est une spirale, où le public du show est installé en escargot et dessine les contours d'un espace vide, des allées concentriques où les mannequins révolutionnent. La technique filmique y est très travaillée, le rythme soutenu, et il s'agit là d'une des rares occurrences dans le film où on a droit à de la musique. Le focus est fait sur chacune des mannequins, chacune des tenues, parfois sur les détails des pièces portées. Travelling arrière rapide avec les silhouettes de face, verrouillées au centre du cadre. Travelling concentrique, fluide, dans les allées pour suivre la vive allure saccadée des modèles. Et enfin, prise de vue en plongée verticale. Caméra au plafond, qui renforce l'étrange sentiment provoqué par cette forme géométrique. Elle qui impose une trajectoire inextricable autour d'un point fixe, le centre, qui se veut destination inéluctable vers laquelle mènent toutes les déambulations. Tous ces éléments concourent à instaurer un climat anxiogène qui atteint son paroxysme lorsque vient le tour d'Elias d'aller saluer son audience et qu'il est comme pris d'une pointe au cœur, une attaque de panique ou le début d'une crise cardiaque, on ne sait pas trop. Il s'élance quand même en courant, à bout de souffle, vers ce même centre, l'œil du cyclone. Bon alors, si je m'attarde tant sur le seuil de ce long métrage, c'est bien sûr car il porte déjà en son sein toute la symbolique attachée à la notion de spirale infernale du déni et de l'anxiété, plutôt bien pensée, qui va être développée tout au long de la sourde tempête cyclonique qu'est ce film. Cette symbolique que l'on retrouve déjà, avant même le début de la projection, sur l'affiche du film où les circonvolutions ont lieu dans la tête même d'Elias. Faire une pause ici pour éviter le spoil aussi, car face à une telle œuvre, comment en parler sans en dire trop ?
Monsieur Bernays. Monsieur Bernays.
Monsieur Bernays, vous venez ?
Alors qu'il s'inquiète d'éventuels problèmes de cœur, très vite après le défilé, son sacre, Elias apprend le décès de son père, avec qui il n'a plus de lien depuis une vingtaine d'années. Celui-ci meurt d'une crise cardiaque. Le successeur doit donc se rendre dans son pays d'origine, le Canada, pour assurer cette autre succession. Là, il doit s'occuper des funérailles, préparer la vente de la maison paternelle et à mesure qu'il en vide les placards, il y découvre également les secrets dont il va hériter. Un premier twist majeur, le premier d'une série qui finit en apothéose lors de la cérémonie des obsèques, fait véritablement basculer le scénario dans le thriller. L'intérêt de Xavier Legrand pour les thématiques de toxicité et de manipulation masculine, déjà présentes dans ses précédentes réalisations, se retrouve encore confirmé dans ce film. avec la même volonté de dénoncer aussi la violence, particulièrement celle exercée sur les enfants par les pères. Et pour ce faire, le successeur exacerbe le glauque, jouant parfois avec notre patience et nos nerfs jusqu'au vertige, en multipliant les fausses pistes, en contractant les espaces et les temporalités et en diffractant les révélations importantes. Les plans fixes où la caméra se retrouve juste posée là, dans le décor, éludent la transmission de certaines informations visuelles dans des angles morts, faisant écho aux nombreuses questions qui restent en suspens dans de puissants hors-champ. Virtuose ou tape à l'œil pourront être jugés ses effets stylistiques et le traitement de l'angoisse et de la paranoïa comme dans Rosemary's Baby. En tout cas, Marc-André Grondin porte vraiment le film avec une interprétation très puissante émotionnellement dans ce qu'elle réussit à retranscrire de honte, d'horreur, de tristesse. Panique, détresse et larmes de désespoir souvent s'éternisent dans des scènes où un temps long est accordé à ce développement émotionnel. Seulement à celui d'Elias d'ailleurs, toujours au centre de la spirale de Legrand. Un peu comme devant certains films d'horreur, on est souvent agacé par les décisions irréalistes ou stupides prises par cet anti-héros, tant l'angoisse généralisée le détourne du bon sens. S'évertuant à ne pas se faire teindre par son héritage, il s'illustre finalement comme véritablement cousu du fil paternel.
Le successeur de Xavier Legrand est en salle depuis le 24 février. Un homme victime de somnambulisme se transforme en quelqu'un d'autre la nuit tombée, de quoi mettre la frousse, ses slips.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama.
Parfaitement au point et incapables de nous tromper.
Quelqu'un est entré.
Quoi ? Thierry ?
Présenté à la semaine de la critique à Cannes l'an passé, le premier long métrage de Jason Liu, Sleep, donc ancien assistant émérite de Bong Joon-ho et Lee Chang-dong, réalisateur d'ailleurs du génial Burning, invite les spectateurs à partager une drôle d'expérience, un véritable exercice d'équilibriste entre horreur et comédie, sans qu'aucun des deux genres ne prenne l'ascendant sur l'autre, caractéristique du cinéma coréen à son meilleur. Alors le film se distingue des parodies ou des potacheries orientées vers le second degré par ses va-et-vient constants entre un ton sérieux dès qu'il s'agit d'installer une atmosphère angoissante et un désir de créer un comique de situation souvent très pertinent, rythmant parfaitement ce petit film sans aucun temps mort. L'histoire très simple mais redoutablement efficace tant elle s'inscrit dans un réel tangible prête autant à sourire qu'à effrayer. Sunji et Yunsu forment un gentil couple modèle tout droit sorti d'une comédie romantique. Elle est enceinte, prête à accoucher, et lui est un comédien de second plan dans des sitcoms. Alors tout baigne dans le meilleur des mondes pour accueillir le nouveau-né dans l'appartement douillet. Ce bonheur idyllique, trop parfait pour être pris au sérieux, ne va évidemment pas durer. Cette petite existence sans heurte est bouleversée lorsque Yunsu est frappé du jour au lendemain de somnambulisme, ne se rappelant rien le lendemain. Alors dans l'absolu, ce n'est pas dramatique et parfaitement surmontable, sauf que ses agissements sont inquiétants, voire dysfonctionnels. Il ingurgite tout ce qu'il y a dans le frigo, atteint d'un coup de boulimie, il se défigure le visage. Comme le tout bon petit couple soudé, il consulte un médecin qui les rassure tout en prescrivant un traitement soi-disant efficace. Il modifie également l'intérieur de l'appartement avec tout un système de sécurité censé protéger le mari. Aucune amélioration n'est visible et le bébé arrive. L'inquiétude de Sunji décuple devant le comportement désemparé du mari. Et la mère de Sunji suggère l'impensable, et si Yunsu ne marchait pas seulement en dormant, mais était littéralement possédé par un fantôme, en l'occurrence par l'ancien occupant des lieux, un vieux monsieur pas très fréquentable. Alors les agissements du mari sont de plus en plus agressifs, son comportement devient effrayant, submergé par la peur qu'il ne fasse du mal au nouveau-né, la jeune maman ne trouve plus le sommeil, et puis perd progressivement pied, se coupant du réel.
Il indique que vous souffrez d'un trouble comportemental du sommeil paradoxal.
Thierry ?
Docteur, ce trouble du sommeil se soigne ?
Découpé de façon un peu artificielle en trois parties, permettant de justifier surtout les grosses ellipses temporelles, Sleep hésite entre une mise en scène formatée, parfaite pour les plateformes du type Netflix, et une inventivité visuelle dès qu'il s'agit d'explorer le décor par des travelling et un montage d'une efficacité diabolique, installant dès lors une tension réussie. Alors tel quel, ce thriller mi-horrifique, mi-burlesque, déroule habilement son programme dans un esprit d'artisanat qui fait du bien, rappelant qu'il est encore possible de réaliser des bonnes séries B qui tiennent la route.
Tu habites avec deux hommes ici.
Est-ce que vous allez la tuer ?
Peut-être, oui.
Je veux qu'on puisse vivre en paix.
Remarquablement interprété par Yumi Jeong et Sun Kyun Lee, qui est d'ailleurs décédé tout récemment et qui jouait notamment dans Parasite. Hein. Deux habitués aussi du cinéma de Hong Sang-soo, hein, venus s'encanailler dans un cinéma plus léger et divertissant. Sleep déçoit néanmoins quelque peu dans sa troisième partie, centrée autour de la folie de la jeune mère. Mais la fin surprenante conclut le film de manière très cohérente, laissant le spectateur dans l'expectative entre la terreur absolue et la farce grossière, avec en filigrane une critique du modèle social prôné par un système rigide. Alors, Jason Yu n'a pas le génie de son mentor, hein, Bong Joon-ho, mais son cinéma affiche une belle santé et une envie de bousculer un cinéma d'épouvante assez conventionnel, même dans son pays. Il est à souhaiter qu'il s'affranchisse encore de certains effets faciles et d'un enrobage visuel passe-partout.
Sleep est en salle depuis le 21 février. Une fillette de 10 ans est aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Nous parlons du royaume des abysses.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Non mais d'où tu sors, toi?
J'ai besoin de retrouver ma maman.
Tu comptes pas garder la gamine?
Il n'y a qu'elle qui peut nous aider.
Aide-moi à atteindre l'œil des abysses. C'est l'antre des Populus. Ils me mèneront à la fortune et toi à ta maman.
Après Monkey King, Hero is Back, une énième adaptation de la célèbre légende du roi singe restée inédite chez nous, hein, malgré le fait qu'elle soit portée par la voix de Jackie Chan, le réalisateur Tian Xiaoping retourne donc au film d'animation avec un projet visuellement bien plus ambitieux, Le Royaume des Abysses, et son parc de diffusion est cette fois-ci très conséquent. Alors il faut dire que les images annoncent un spectacle d'un tout autre genre, hein, que de l'animation, on va dire plus traditionnelle, qu'elle soit en 2D ou 3D, même si l'œil averti aura su noter l'évolution de ce genre presque à part entière, et surtout les dernières innovations en la matière qui arrivent à renouveler un genre qui se mordait la queue depuis de nombreuses années, en particulier à Hollywood.
Plonger dans une grande aventure.
Cette saleté de fantôme rouge, il est derrière le hublot.
Le fantôme rouge adore chasser les petites filles tristes. Alors souris, t'as besoin d'un petit relooking.
Un voyage aux mille émotions.
Fais demi-tour, c'est trop dangereux.
Le Royaume des Abysses raconte l'histoire de Shen Xiu, une petite fille de 10 ans qui a beaucoup de mal à trouver sa place au sein d'une famille recomposée. Sa mère s'en est allée et elle doit faire avec une belle-mère et le bébé qu'elle a fait avec son père, en plus d'un père qu'elle voit joyeux avec sa nouvelle femme, comme si le passé qu'elle chérit n'avait pas vraiment existé. Si la famille a l'air heureuse à première vue, c'est dans un puits de mélancolie et de solitude dans lequel Shen Xiu coule inexorablement, le visage toujours enfoui dans son sweat à capuche et le portable greffé à la main, dans le vain espoir que sa mère lui donne signe de vie et surtout d'affection. Alors au cours d'une croisière familiale, le pire intervient et Shen Xiu bascule par-dessus bord alors qu'une tempête fait rage. Mais loin de se noyer, elle découvre un univers fantastique, celui des abysses, qui va lui révéler tous ses secrets. Alors en premier lieu, il y a le restaurant dirigé par l'excentrique capitaine Nahane qui ne veut pas d'elle dans son monde d'animaux marins et de féeries aquatiques. Mais au-delà des différences du rejet initial, les deux personnages vont devoir s'allier pour contrer une menace bien plus grande qu'eux, le fantôme rouge, une entité destructrice qui les poursuit et va les amener à se surpasser dans un monde fait d'eau, de faux-semblants et de métaphores pastels.
Tu dois aller jusqu'au bout de ta quête.
Retenez votre souffle.
Mon fier équipage, tous à vos postes. La vie n'est-elle pas une aventure ? Il ne faut pas passer à côté.
Alors il y a eu Spider-Man New Generation en 2018 qui avait mis une claque monumentale au monde de l'animation, et même si sa suite avait revu un petit peu à la baisse la folie et l'inventivité extrême du projet originel, on peut décemment dire qu'il y a un avant et un après donc ce Spider-Man. Dans la manière d'aborder le graphisme dans ce qu'on peut grossièrement résumer par le genre du dessin animé. Alors on sent que le Royaume des Abysses pourrait être un de ces petits jalons qui s'inscrivent dans cette volonté globale de casser les designs ronds à la Disney ou les structures en modélisation quasi identiques chez Pixar ou DreamWorks. L'avantage de ce film, c'est qu'il s'inspire tout autant d'une longue école du dessin animé chinois et asiatique que de la 3D telle qu'elle est pratiquée depuis presque 30 ans et le chef-d'œuvre Toy Story. Alors on note aussi une influence majeure dans la manière de dépeindre les mondes aquatiques et sous-marins à côté de laquelle on ne peut bien évidemment pas passer. C'est bien évidemment les monuments Avatar et Avatar la voix de l'eau du roi du monde James Cameron. Tout l'univers en bioluminescence est directement hérité de la vision du papa de Terminator et s'y greffe une animation entre la BD crayonnée, alors, ou plutôt le manga, et une forme de réalisme qui nous interpelle sur les techniques utilisées. Alors si le film est sublime dans son usage des couleurs, je me demande s'il n'y a quand même pas eu une sorte de traitement par l'intelligence artificielle, outil, on le sait, qui va changer considérablement le monde de l'art dans les années à venir. On pense aussi beaucoup au somptueux travail pictural de Vincent Ward sur le film Au-delà de nos rêves, qui plongeait Robin Williams dans un au-delà fait de peinture vivante et vision démente. Alors ce traitement très riche est d'ailleurs peut-être même un peu trop riche par rapport à ce que propose vraiment le noyau dramaturgique du film qui s'étend sur près de 2 heures alors que le fond symbolique de ces événements est très simple voire facilement devinable au cours de la projection et ne nécessitait probablement pas autant de circonvolution. Enfin, ça tire un petit peu sur la longue. Alors on pense à l'histoire sans fin et la signification du néant à travers le destructeur Fantôme Rouge et aussi à la menace de Planète Interdite, ce classique de science-fiction des années 50 qui utilisait littéralement le ça freudien comme antagoniste monstrueux. Alors dans tous les cas, c'est quand même une expérience à faire sur très grand écran, en ayant en tête quand même pour les plus jeunes que derrière les couleurs, cette métaphore du deuil et de la seconde chance est plus langoureuse et mélancolique que véritablement pétillante.
Et bien voilà, emmenez vos enfants donc voir Le Royaume des Abysses, c'est en salle depuis le 21 février. Des enfants, il est encore question, mais des enfants sauvés par plusieurs centaines. Ils étaient à Prague et les nazis arrivaient dans la ville. C'est l'histoire d'une vie de James Hawes.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Et maintenant, une histoire extraordinaire qui vient d'être révélée au sujet d'un jeune homme qui est allé il y a bien longtemps visiter Prague. Il a découvert là-bas des milliers de réfugiés abandonnés et à la merci de l'invasion imminente d'Hitler.
Parlons rapidement d'une vie, un film qui raconte une histoire vraie, celle de l'évacuation à partir de 1938 de plusieurs centaines d'enfants de Prague vers la Grande-Bretagne, puisque la ville est sous la menace des nazis. Plus exactement, le film de James Hawes s'intéresse à la vie de Sir Nicholas Winton, qui va organiser avec d'autres des convois vers l'Angleterre, où 669 enfants juifs trouveront refuge. Le parti pris du réalisateur, c'est de partir d'une vidéo qui avait été virale sur Internet. On y voyait le Britannique invité dans une émission dont le public, à sa plus grande surprise, était composé de ses enfants qu'il avait contribué à sauver. Bouleversant. Le film ne veut pas faire autre chose, nous emmener jusqu'à ce sentiment. Alors il se découpe en deux temporalités. Malheureusement, ce qui se passe à Prague est filmé à la va-vite avec du faux suspense. Il y a ce qui va ensuite amener cet homme, ancien banquier, à participer à cette émission, donc dans les années 80, car mine de rien, il aimerait bien que ce qu'il a fait trouve sens à son époque, qui a encore besoin qu'on accueille des migrants. Alors c'est ce qu'on retiendra. Le vieux banquier est interprété par Anthony Hopkins, tout en retenue et intériorisation, mais c'est quand même nos sanglots que le réalisateur va chercher. Une vie est un film qui est en salle depuis le 21 février. Nous terminons cette émission par une BD, Les Guerres de Lucas.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir.
Une BD a fait fort impression en 2024, c'est celle de Renaud Roche et Laurent Aupin, intitulée « Les guerres de Lucas », sous-entendu George Lucas. L'album vient de remporter coup sur coup alors 2 prix importants, le prix France Info de la BD d'actualité et de reportage, ainsi que le prix BD FNAC France Inter. Alors c'était au mois de janvier, mais on a tardé à en parler. Et fin 2023, il était également pointé par le quotidien Le Monde parmi les meilleurs ouvrages de BD. Alors de quoi parlent les guerres de Lucas? Les deux auteurs, Renaud Roche, le dessinateur, et Laurent Aupin, le scénariste, se sont replongés dans le processus de création de la guerre des étoiles en puisant des détails que l'histoire officielle avait pu gommer. L'ouvrage est passionnant à plusieurs titres, alors évidemment pour tous les fans de Star Wars qui peuvent apprendre la genèse d'un succès, et puis même pour les autres qui peuvent apprendre comment au milieu des années 70 on pouvait s'y prendre pour produire un film qui va quand même révolutionner le cinéma. Le livre commence par les débuts, quelques pages sur la jeunesse de George Lucas, mauvais élève et mauvais conducteur car il subit un grave accident de voiture, puis la révélation, celle d'apprendre le cinéma et d'en faire. Son premier film d'étudiant est un coup d'éclat, le fameux THX 1138-4 EB, des effets spéciaux bluffent ses camarades et une partie de la profession. Alors après cela, Lucas va rencontrer Spielberg, à qui il restera lié, Francis Ford Coppola ou Brian De Palma. Mais il va suivre une trajectoire bien différente de tout cela. Alors on voit comment Lucas élabore le premier scénario de la Guerre des Étoiles en s'inspirant de la forteresse cachée d'Akira Kurosawa. La Fox accepte de payer pour voir, mais pas trop. Hein, et c'est là que l'histoire est passionnante. Sans l'acharnement et la pugnacité de George Lucas et un solide entourage comme celui de son producteur exécutif ou de sa femme monteuse, eh bien, la Guerre des Étoiles n'aurait jamais vu le jour. Le scénario définitif apparaîtra plus tard. Il convaincra alors à peine l'équipe technique du tournage, notamment le chef opérateur, le britannique Gilbert Taylor, qui à cette époque avait un sacré CV. Et même Alec Guinness, qui joue à Kenobi, se demandait bien ce qu'il était en fait en train de jouer. On apprend plein de choses sur les comédiens, comme s'il s'en est fallu de peu qu'Harrison Ford ne prenne pas le rôle de Han Solo, car George Lucas ne voulait aucun acteur ayant joué dans son précédent film American Graffiti. Et on apprend eh bien, les rivalités entre ceux qui jouent C-3PO et R2-D2, les deux droïdes. On voit les doutes, l'acharnement, le succès, comment la Fox, trop timide, eh bien, s'est fait flouer hein, au final, Lucas allant jusqu'à gagner la bataille des produits dérivés. Non seulement ce qui est raconté se lit facilement, mais les dessins sont également très lisibles. Spielberg comme De Palma se reconnaissent aisément.
Quand je pense à ce que nous avons traversé, je n'en reviens pas que nous soyons encore en état de marche. Avec cette rébellion et tout ça.
Tu es au courant de la rébellion contre l'Empire ?
C'est même à cause d'elle que nous sommes maintenant chez Monsieur.
Tu as vu des batailles ?
Plusieurs, enfin je crois. Mais je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis un interprète, je ne sais pas très bien raconter les histoires. Ou du moins, je n'arrive pas à les rendre intéressantes, hélas.
Bon, j'ai pris cet extrait parce que, là, pour le coup, c'est un peu ironique, puisque cette BD raconte formidablement bien cette histoire. Alors, Guillaume, tu connais le dessinateur ?
Oui, Renaud Roche, qui a, je pense, un excellent coup de crayon, parce que, comme tu l'as dit, on reconnaît absolument tout le monde hein, en quelques traits. Et je pense qu'il a trouvé une très très bonne alliance avec son scénariste parce que on connaît l'histoire hein, de
enfin,
la Guerre des Étoiles de manière générale. C'est-à-dire que quand même c'est la saga la plus populaire de l'histoire du cinéma. Américain ou mondial, hein. Ça a été très documenté via de très nombreux making-of, documentaires, hein, que ce soit sur VHS, DVD, Blu-ray, etc. Ben, malgré tout, et c'est mon cas, hein, que je connaissais donc ça très bien, je l'ai lu en une soirée, donc où je m'étais dit je lirais quelques pages, et je me suis retrouvé 2 heures plus tard à le finir, et les 200 pages étaient tombées d'un coup. Donc non, il y a un travail de condensation et de rythme, c'est très important le rythme dans une BD, qui faiblit jamais, on a l'impression que c'est tambour battant, alors que bien évidemment le pauvre Lucas lui se décompose hein, au fur et à mesure que les années passent hein, parce que le projet évolue beaucoup que ce soit au niveau scénaristique ou même de la production hein, et non voilà c'est un travail de condensation assez fabuleux je trouve assez superbe aussi le fait de rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que tu parlais du producteur exécutif et de la femme de Lucas. Oui, Marcia Lucas a eu un énorme impact. Hein. C'est pas la seule monteuse qui a bossé sur le film, mais elle a un énorme impact. Et sans Gary Kurtz, donc le producteur qui a été littéralement un pilier absolu hein, pour que le projet il soit mené à bout, il n'y aurait jamais eu de film. Hein. Littéralement. Bon, alors il y a d'autres personnes. Je pense qu'on passe un petit peu vite sur la révolution qui a été ILM, hein, Industrial Light and Magic. C'est la boîte d'effets spéciaux créée littéralement par Lucas pour les besoins de son film qui a amené à ce que justement ce film en 77 n'est plus la tête des films de SF tels qu'on les faisait jusqu'à présent avec des surimpressions à l'écran et qui montrent qu'on voyait hein, qu'il y avait un écran bleu, qu'il y avait voilà, des techniques qui n'étaient pas forcément qui commençaient devenir obsolète, on va dire. Et c'est ce qui a fait que le film en 77 a été une énorme évolution.
C'est très intéressant. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est à raconter, c'est comment finalement ce succès a surpris George Lucas lui-même. Hein, il est passé dans la rue, il a vu des gens qui attendaient devant un cinéma. Il s'est dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est ? Ben tiens, c'est mon film. Enfin, et c'était très surprenant pour lui.
Ben, c'est la phrase célèbre de Coppola hein, qui avait dit « George, avec ce film, tu as créé une religion. » Et je pense que personne ne s'attendait à ça, effectivement. D'ailleurs, c'est marrant de voir qu'on a d'un côté dans la BD, alors là aussi c'est très connu, mais c'est très bien retranscrit avec beaucoup d'humour. On a De Palma qui ricane un petit peu sur Lucas qui fait son histoire avec des chevaliers qui se battent avec des sabres laser. Et à côté, il y a un geek comme Spielberg qui dit « Mais si, ton film, il va marcher. Il est super intéressant. » Moi ça me plaît et effectivement c'est aussi ce qui est beau c'est que je pense que ça va donner envie aux jeunes de se replonger dans ben, cette magnifique époque des années 70 où Il y avait un nouvel Hollywood qui s'essoufflait. Les gens en avaient marre de certains spectacles. Et au milieu, il y a une jeune génération qui, à la fois, était un peu hippie et surtout beaucoup biberonnée au cinéma classique aussi, à tout type de cinéma, mais surtout le cinéma classique. Je pense au film d'aventure des Rolf Flynn, par exemple, à une certaine vieille SF des années 30, etc. Et bien, qui ont réussi à faire un parfait mélange entre l'ancien et le nouveau pour créer toute une nouvelle série de divertissements. Je pense à Star Wars, qui était le premier, bien sûr, de la lignée, mais il va y avoir Indiana Jones qui arrive avec exactement la même équipe en 81, par exemple. Et bon, vous connaissez tous les années 80 hein, et tout ce qu'ils auront produit.
En tout cas, ça peut intéresser ceux qui aiment Star Wars, ceux qui le connaissent, et puis ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire. Cette BD, Les Guerres de Lucas, est disponible chez Demand Éditions.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine et vous avez chacun un film.
Moi, j'aurai un documentaire, La mère de tous les mensonges, un documentaire marocain de Asma El Moundir.
Et puis toi, Guillaume ?
Moi, ce sera un polar irlandais, c'est In the Land of Saints and Sinners avec Liam Neeson.
Et puis moi, j'aurais vu Dune, et ce sera l'occasion de jouer un blind test sur la filmographie de Denis Villeneuve à la semaine prochaine.